Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Esprit Sport. Ravi de vous retrouver pour cette 33e émission avec un beau programme qui nous attend à J-100, 101 jours des JO à Paris. Une équipe presque au complète aujourd'hui. Tout le monde est là, on commence l'appel. Bonjour Coraline, bienvenue.
Bonjour à tous.
Comment ça va ?
Eh bien fort bien, et vous ?
Vous avez passé un bon week-end ?
Week-end sportif, j'en porte encore les séquelles en termes de courbatures.
Ah oui, vous êtes allé à la salle de sport, c'est vrai.
Exactement.
Très bien. Bonjour Anne-Françoise.
Et salut.
Comment ça va ?
Eh bien ça va bien.
On est contente, on a passé un bon week-end ?
Oui, moi aussi j'ai un petit peu de courbatures.
Ah, vous aussi vous êtes allé à la salle ?
Non, vous avez fêté la victoire de... chez moi, mais...
C'est la victoire du Stade Toulousain qui
aussi, vous a... aussi, c'était quand même pas mal.
En plus, on vous imagine très calme derrière votre écran.
Ah bah oui, détendu comme d'habitude,
oui, c'est ça,
calme
oui.
et silencieux. Ah,
c'est...
Mon mari aurait beaucoup à dire là-dessus.
Bon, on l'embrasse, écoute, évidemment. Julien est aussi là, bienvenue.
Ben merci, bonjour Jonathan, bonjour à toute l'équipe.
Vous aussi, ça va
Oui, mais pas de courbature de mon côté.
Pas de courbature,
pas de sport ce week-end.
Ah,
mais sport à la télé.
Ben,
bien évidemment.
Ça, là, ici, il n'y a que des champions.
Dans tout cas, on n'a pas le choix.
Oui, c'est vrai. Ah si, vous en faites un peu, vous, du sport.
Oui.
Oui,
non, de temps en temps.
J'ai vu jouer au rugby, c'est beau niveau, ça va.
On essaye.
C'est meilleur que Erwan, bonjour Erwan.
Que vous êtes méchant avec moi, j'attendais, je
Erwan,
voyais venir déjà.
Erwan qui se beurrait les doigts avant d'aller jouer au rugby. Et qui...
non, mais bah, le problème de Jonathan, c'est
il envoie
que
pas des, il
me
envoie
voit
pas des
faire
ballons.
Deux en avant au début, il est persuadé que j'en fais tout le match.
Il n'envoie pas deux ballons, il envoie que des parpaings et des pizzas.
Mais non, ça va, j'ai quand même fait quelques beaux trucs.
C'est vrai.
J'ai marqué pas mal d'essais au final, on y reprend.
C'est vrai. Effectivement.
Voilà. J'ai, j'ai eu mon petit moment de gloire sur le rugby.
C'est vrai. Non, c'est vrai, on a pu pratiquer cette belle discipline.
Je sais pas s'il fera l'haltérophilie par contre, hein, je préviens de suite.
Oui, mais ça, on se posait pas la question pour tout vous dire. Voilà. En tout cas, en tout cas, voilà.
Et pas de courbature non plus de mon côté. Hein.
Non, ça va, vous, ça va.
Le
un week-end de travail sûrement.
Oui.
Oui, voilà. Oui. Donc forcément, quand on travaille, on n'a pas le temps de faire du sport. Le programme de 7h, petit retour en arrière sur les performances sportives de la semaine, bonnes ou mauvaises, dans les tops et les flops. On parlera de hockey sur gazon dans l'entretien d'aujourd'hui. Et si vous êtes passé à côté de la performance du Stade Toulousain ce week-end, on va y revenir avec la question de la semaine. Après ces bonnes performances face à Pau en top 14 et face à Exeter en Champions Cup, le Stade Toulousain se dirige-t-il vers un doublé championnat Coupe d'Europe ? On tentera d'y répondre dans cette émission. On terminera avec un pronostic et une analyse de match du week-end. Mais tout de suite, on retrouve Corinne Saint-Félix pour l'actualité sportive en région.
L'Infosport avec Corinne Saint-Félix.
Le Stade Toulousain se qualifie pour la demi-finale de Champions Cup.
Les stadistes ont été brillants en seconde période après avoir été bousculés en première. Le Stade Toulousain a écrasé 64 à 26 Exeter dans une enceinte d'Ernest Vallon sous le soleil. La demi-finale se tiendra en mai et au Stadium contre les Harlequins. Ils viendront revanchards à Toulouse après avoir perdu 47 à 19 en décembre dernier. La prochaine rencontre du Stade Toulousain dans le top 14 aura lieu le samedi 20 avril à 21h05 contre Toulon.
2 mois après sa création, le W7 Saint-Jean 31 organise son premier tournoi Ice mardi 16 avril.
L'idée d'un club de rugby à 7 en fauteuil est née il y a 2 ans, en partie grâce au joueur de rugby à 15 Yann Delegue. Le club s'est installé à Saint-Jean. Le premier événement a lieu mardi à partir de 10h au gymnase Alex Jani, situé chemin Belbèze. Des initiations seront encadrées par Wally Salvan jusqu'à 18h. Le parrain de l'association, ancien international de rugby à 15 et ancien du Stade Toulousain, Omar Hassan, sera également présent. Durant cette journée, les enfants comme les adultes à mobilité réduite ou non pourront donc découvrir le rugby à 7 en fauteuil. Mais elle doit aussi permettre à l'association de récolter des fonds auprès d'entreprises pour financer des fauteuils adaptés à cette discipline.
Le TFC était en déplacement au Roazhon Park de Rennes ce samedi pour la 29e journée de Ligue 1.
Les hommes de Carlos Martinez Novel ont enfoncé les Bretons, score 1 à 2. C'est d'abord le joueur René Désiré Doué qui a ouvert le score à la 20e minute, suivi de 2 buts par les Toulousains. Toulouse reprend donc la 11e place du classement. Une rencontre qui a été marquée par des affrontements entre supporters de Toulouse et Rennes. Quelques heures avant le match, 10 Toulousains ont été blessés, mais seul un a été hospitalisé pour un possible traumatisme crânien. Une enquête confiée à la direction interdépartementale de la police nationale de Rennes a été ouverte. Pour cette fin de saison, il reste encore 5 matchs à jouer pour les Violets. Ce dimanche 21 avril, le TFC affrontera l'OM au Stadium.
En basket, la Ville Rose s'est bien défendue ce week-end.
Le dernier tour de piste à domicile en National 2 a été réussi pour les Taureaux. L'équipe a remporté 88 à 82 son dernier match à la maison contre Boulogne. En Ligue 2, les basketteuses toulousaines ont poinçonné leur billet pour les demi en dominant 85 à 54 l'USO Mondeville.
Défaite en revanche pour les Tarbaises.
Pour leur dernier match de la saison régulière à domicile, les Tarbos Lourdes se sont inclinés 58 à 74. Les Tarbos Lourdes ont brisé leur série de victoires en s'inclinant sur leur parquet pour la dernière de la saison à domicile en saison régulière contre Andrézieux. Résultat, 51 rebonds pour Andrézieux, seulement 33 pour l'Union. Alors que certains pensaient lorgner sur la première place avec une victoire, les unionistes vont chuter au classement avant d'entamer les play-offs après une dernière rencontre à Saint-Vallier.
Dans les Pyrénées, des fous de la glisse ont bravé les plus beaux sommets.
À presque 40 ans, trois freeriders oloronnais, Bobby, Damien et Denis, ont enchaîné ce week-end des figures dans les airs. Leur truc à eux, c'est le freeride. Comprenez le hors-piste, mais en version acrobatique. Pour voltiger dans les airs avec leur board, ils ont escaladé à main nue les parois rocheuses. Un pic rocheux au-dessus de leur tête, il ne leur en fallait pas plus.
L'Osso Kayak Extrême, compétition de kayak en pleine nature, s'est déroulée ce week-end.
Le Pau Canoë Kayak Club Universitaire a organisé la deuxième édition de cette compétition. Objectif, réunir des kayakistes de tous les niveaux. Cette année, le rassemblement s'est déroulé sur 2 jours et dans 2 sites différents. Le Gave de Pau, au niveau de la base d'eau vive du Pont d'Espagne, et le Gave de Broussé-Vallée d'Ossau, au-dessus d'Artoust. Un choix qui permet de maintenir le rassemblement, même en cas de manque d'eau sur le Gave de Broussé. Le premier propose un parcours d'une longueur de 400 mètres et d'une dizaine de mètres de dénivelé avec 3% de pente, accessible à des kayakistes confirmés. Le deuxième, celui de Broussé, le parcours historique de la Pyrénées Buddies Race. De 500 mètres de long et possédant une 20aine de mètres de dénivelé, il est réservé aux kayakistes expérimentés. 70 kayakistes se sont inscrits ce week-end.
Alors merci Corinne Saint-Félix pour un point très complet, plus long que d'habitude, sur l'actualité en région. Tout de suite, les tops et les flops.
Les tops et les flops.
Et étant donné que nous sommes nombreux, on honneur aux dames, on va commencer par Anne-Françoise.
Ah bah merci beaucoup
avec
Jonathan.
Avec plaisir, mais toi ma
la vieillesse avant la beauté.
Pff, j'ai rien dit, c'est pas moi qui l'ai dit, vous dévalorisez toute seule.
Bon, du coup, moi, j'ai 2 tops parce que vous savez que moi, je vis dans le monde des bisounours. Hein, donc, comme j'arrive pas trop à trouver de flop, je me suis mis 2 tops. Un qui date un peu, c'est du hand. C'est le HBC, donc le club de Nantes, qui a battu le PSG. Première défaite de la saison en championnat pour le PSG. Et du coup, c'était un match... Bon, alors, comme d'habitude, dans les matchs de hand, ça sert à rien de regarder les 90% du début parce qu'en fait, tout se joue uniquement à la fin. Voilà. Et donc, c'était plein de suspense, comme d'habitude en hand. Trop chouette, ambiance
c'est bien,
de feu.
En tout cas,
feu.
Vous nous vendez bien la discipline, c'est bien.
Mais vous avez pas remarqué ça? Ça se passe tout le temps, les 4 dernières minutes,
bon,
c'est génial.
Si, mais bon, c'est bien
un peu
ah non,
mais j'adore, moi, du coup, c'est hyper, il y a plein de suspense, c'est trop bien. Ambiance de feu à la H Arena, vous auriez vraiment aimé les musiques qui passent en plus. Je suis sûre que ça, en plus, vous aimez bien. Non, c'était, voilà, grosse... Il se retrouve dans, je crois, 3 semaines pour la Coupe. Donc, il va peut-être y avoir la revanche du PSG. Et mon deuxième top, puisque c'est le jour des tops, ce sera sur le rugby, le match du stade. Alors je savais pas trop qui mettre en top.
C'est original ça.
Paul Coste, King Horn qui a été incroyable. Enfin bref, ils ont tous été super. Mais quand même, je mets un petit top aux 2 Chistera de Paul Coste qui débloquent 2 très belles actions. Il y en a une, je pense que si la Chistera n'était pas passée, l'action n'aurait pas été au bout. C'est la 2e Chistera qu'il a faite là. Franchement, on pourrait avoir des petites inquiétudes devant Paul Coste parce qu'il a quand même une tête de Ken et on pourrait se dire ah ce mec il est beau gosse mais peut-être il fait rien. Bah en fait je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une paire de centres aussi sympa.
Faut que ça dure.
Eh ben on espère ouais.
C'est ça le souci, c'est de bien performer sur un match c'est bien, mais sur
après,
une saison
son,
c'est mieux.
C'était son premier match de phase finale à ce niveau-là quand même. Il a assuré hein.
Eh bien on attend la suite.
Et voilà.
T'as pas mettre la charrue avant les bœufs.
C'est ça.
Et du coup, pas de flop. Si, le flop, on pourrait mettre Exeter, forcément.
Non, bah, je sais pas si je mettrais un flop. Ils ont quand même fait une super première
mi-temps. Qui n'a pas compris que moi je durais 80 minutes.
Ouais, voilà,
mais,
ouais.
mais
un peu terrible.
Mais c'est comme ça. En tout cas, beaucoup de personnes s'est régalées devant ce match.
Ah, c'était sympa.
Coraline.
Mon top, ça sera pour Anouk Garnier, un top un peu particulier. Mercredi 10 avril, Anouk Garnier a grimpé à la corde pour atteindre le deuxième étage de la Tour Eiffel à 70 mètres en 18 minutes. Elle a pulvérisé ainsi le précédent record femme qui était à 26 mètres et surclasse également le record homme qui lui était à 90 mètres. Bravo madame, et mon flop ça sera pour la contre-performance de Bordeaux en Champions Cup. L'Union Bordeaux-Bègles avait, je pense, les armes pour faire face, mais maintenant il leur laisse plus que les larmes. Pour faire face chez eux aux Harlequins. Mais avec une première mi-temps où la défense a été trop perméable, 12 à 28 en faveur des Anglais avant la pause, l'UBB a couru derrière le score en seconde période. Une deuxième mi-temps où nous y avons cru devant notre télé. Alors certes, Maxime Lucu manque la transformation de la gagne à la 76e minute, mais comme j'aime le dire, un match de rugby ne se joue pas sur un coup de pied dans les dernières minutes. Donc voilà, donc triste sort à l'UBB qui vraiment avait... des clés pour gagner ce match.
Oui.
Merci.
Quelle analyse.
Non, j'étais en train d'essayer de chercher des excuses pour l'UBB, peut-être les premières chaleurs.
Le très mauvais début de match.
Voilà. Ouais. En soi, en fait, il n'y a pas d'excuses, c'est juste qu'ils ont très, très mal commencé le match. Donc, en fait, non, c'est comme ça. Et les joueurs de Yannick Bru, il leur reste le top 14.
Voilà. Exactement.
On leur souhaite pas, parce que on souhaite qu'il y ait quelqu'un d'autre qui gagne, mais voilà. En tout cas, ce sera...
du coin, si possible.
Oui, voilà.
C'est ça.
Si possible, voilà. Il serait bien ici, le bouclier. Là, derrière, en fond.
Alors, il m'éblouirait peut-être un peu quand je regarde, mais voilà.
Merci, Arwen. On le mettra là, alors, comme ça, moi, il vous éblouira pas. On enchaîne, merci beaucoup, Coraline, avec Julien.
Bah écoutez, en top, moi, j'ai décidé de parler basket et NBA. Donc hier, la saison régulière s'est achevée. Et donc, pour en venir en top, du coup, je vais mettre notre Français, Victor Wembanyama. Ah oui. Donc, malheureusement pour lui, la saison, elle est finie. Parce que voilà,
les
Spurs, ils ont quand même réussi, parce qu'ils ont passé à peu près 95% du temps à la dernière place de la Conférence Ouest. Mais sur les 2-3 derniers matchs, ils ont réussi à monter à la 14e place. Bon, petite satisfaction, mais sinon, pour en revenir au joueur en lui-même, il a, pour sa première saison NBA, il a quand même cassé presque tous les records. Voilà, il finit avec 21,5 points de moyenne, enfin il finit en double-double, donc avec 16 rebonds, 4 passes et surtout 3,6 contre, donc il est meilleur contreur de la ligue en plus.
2m20
2m24, bon, c'est sûr que ça aide, mais quand même...
pratique pour enlever le toit d'araignée à la maison.
Oui, c'est sûr. Et puis donc voilà, après des records à l'appel, il était devenu par exemple le premier joueur à faire 40 points et 20 rebonds depuis 30 ans, enfin pour un rookie, enfin des
à l'amorce des JO, ça va être bien.
Et il y a même surtout un record qui est affolant, c'est qu'il est le seul joueur à avoir fait 5 rebonds, 5 contre et 5 3 points dans un match, et il l'a fait deux fois. Et dans l'histoire, c'est jamais arrivé. Et ouais, c'est que sa première saison, et comme il a dit en plus là, parce que pour sa fin de saison, il a eu pas mal d'interviews et il a dit qu'il était qu'à 15% de ses capacités.
Alors oui, ça promet. Ouais. J'ai vu ça, je me suis dit bah
donc si c'est vraiment le cas, voilà.
S'il peut être à 50 pendant les JO, ce serait pas mal. On prend. Si ça c'est 15, s'il peut monter un peu le curseur.
Oui, voilà. Mais ça on n'en doute pas.
On espère.
Il va faire qu'augmenter. Bah, en espérant que son corps
c'est ce qui nous fait peur.
C'est sûr qu'un physique comme ça, c'est un peu compliqué. Quoi.
Donc il faudra suivre ce joueur, vous qui nous écoutez, Victor Wembanyama. Il est français. Et au JO en basket, s'il y participe, parce qu'on ne le sait pas encore, ça devrait se faire. Il va à peu près tout casser. Si vous ne le reconnaissez pas.
C'est le plus grand.
Voilà, c'est tout. C'est très très grand. Ouais, 2m24, c'est. Si vous vous dites oui mais ils sont tous grands au basket, vous allez voir la différence.
Ah oui, lui est vraiment plus grand.
C'est à dire que le panier en fait il a pas besoin de sauter.
Non.
Il peut toucher.
Non,
il a la raquette.
C'est à 3 mètres.
La raquette.
C'est
à 3-0, oui, mais avec les bras.
Ah oui, bah oui.
Avec les bras, voilà.
Moi, depuis que vous avez dit sa taille tout à l'heure, je me dis mais comment il fait pour trouver un lit? Genre il va à l'hôtel.
Teddy Riner a eu ce problème au Japon quand il allait faire les JO, c'était il cassait les lits en fait parce qu'il est trop lourd pour les lits japonais.
Mais c'était l'anecdote, c'est qu'il ne rentrait pas.
Hey, même la chambre, il faut péter un mur.
Il doit avoir une belle hauteur sous plafond, en tout cas, Jules.
Ouais. Ah, lui, il doit vivre dans un appart parisien.
Pour le coup, il doit faire les toiles d'araignée.
Oui, du coup, c'est pour ça. Mais il a eu les cheveux courts à un moment donné aux Spurs, peut-être que ça s'est arrangé. Merci beaucoup, Julien. Vous êtes terminé ?
Et mon flop, du coup.
Et votre flop, ouais, c'est vrai ? Excusez-moi.
Et du coup, en flop, on va parler rugby aussi. Et moi, je vais parler de La Rochelle. Alors bon, il est vrai que, au vu de cette saison, du quart de finale, enfin du huitième de finale, bon, c'est sûr que La Rochelle, au Leinster, n'était pas favori, loin de là. Mais pour autant, La Rochelle a montré ces dernières années, déjà, dans les matchs couperés, qu'ils étaient très forts. Et contre le Leinster aussi, qu'ils ont battu deux fois. Alors certes, en poule, là, cette année, ils ont perdu, mais il y avait la place. Mais du coup, ce week-end, il n'y a pas eu vraiment de match. Bon, vaguement, en première mi-temps, où La Rochelle a quand même un peu, on va dire, limité la casse. Mais franchement, il y avait 2-3 classes d'écart entre les deux équipes. Et puis, donc voilà, et surtout qu'en plus, cette équipe du Leinster n'a jamais été aussi, je pense, prenable que ces deux dernières années, qui eux aussi, un peu, voilà, on a l'impression que les internationaux irlandais sont un peu en dedans. Et surtout qu'il leur en manquait quelques-uns. Ils n'avaient pas, par exemple, Keenan, Ringrose, pas de Van der Flier, enfin, que des gros joueurs qui n'étaient pas là, mais pourtant ils ont survolé et La Rochelle n'a pas existé, donc c'était un peu décevant pour le champion en titre.
Et qui est éliminé dès l'écart, et ce qui finalement, on le verra peut-être plus tard, arrange un peu les rouges et noirs.
Ah bah oui, complètement.
Voilà, on en parlera juste après. Merci Julien, et on termine par vous, Erwan.
Alors moi, pour commencer, je vais aller un peu du côté du ballon rond, et pas de la petite balle de handball qui rebondit dans le gymnase, mais bien du côté du ballon rond qui glisse sur le pré. Je suis poney, j'allais dire.
Moi, je suis scorpion comme vous.
Non, je voulais parler donc du TFC qui a fait un match, ou plutôt même, on pourrait dire, un résultat excellent du côté de Rennes. Le Roazhon Park s'est tu très rapidement en l'espace de 10 minutes, où le TFC a d'abord cru prendre une petite correction de la part de Rennes, avec notamment Désiré Doué qui a ouvert le score à la 20e minute pour le Stade Rennais. Et puis au final, seulement quelques minutes après, il y a Christian Caceres avec une magnifique frappe. Vraiment, je pense qu'il en voulait au gardien, alors qu'il a imaginé très très fort quelqu'un qu'il n'aimait pas, parce qu'il a il a dû avoir peur, qui a donc ouvert le score côté toulousain, un partout. Et puis 10 minutes après, il y a Moussa Diarra qui en a remis une couche. Et ensuite, le TFC a réussi à très bien s'en sortir, et même à faire déjouer le Stade Rennais. Il suffit de voir la différence de visage entre les joueurs rennais en début de partie, quand ils menaient totalement dans le jeu et qu'ils dominaient la rencontre, et aux dernières minutes du match où ils comprenaient très bien qu'ils auraient beau multiplier les assauts, ils n'arriveraient pas à venir à bout du TFC. Donc voilà, les violets gagnent à l'extérieur, qui plus est chez un candidat à l'Europe sérieux. Et même, on pouvait même entendre les journalistes de Prime Video avoir un petit discours qu'on avait il y a quelques semaines, en se disant: est-ce que le TFC ne pourrait pas bientôt prétendre à l'Europe? Alors j'avoue que nous, depuis ce débat, on est beaucoup à l'avoir oublié, mais visiblement c'est dans les têtes encore de certaines personnes. Ça reste quand même très compliqué à imaginer, mais bon, prochain match, la réception de Marseille, on sait que c'est toujours quelque chose de très très compliqué pour les violets, vu le grand nombre de supporters marseillais qui existent dans le coin et qui souvent n'hésitent pas à venir acheter des places au cœur du stadium, quitte à faire un peu de concurrence aux Indians. Voilà, on espère cette fois un résultat à la hauteur pour les violets et qui leur permet de réaffirmer leur territoire.
C'est vrai, on s'inquiétait un peu pour Toulouse en début de saison, mais finalement tout va bien.
Oui,
ils
même,
vont
même
peut-être remonter
d'Europe.
Même avec la Coupe d'Europe. Donc finalement, on en parlera évidemment de cette saison du TFC, mais c'est pas encore terminé. Okay. Et votre flop, qu'est-ce qui vous a marqué?
Alors pour mon flop, j'ai décidé de parler du seul quart de finale dont je pense 80% des gens qui ont regardé les quarts de finale français n'ont pas regardé. Je parle bien sûr de Northampton Saints.
Vous nous faites voyager.
Oui, voilà, au Franklin's Garden, donc de Northampton. Alors Northampton, c'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup en France, mais qui est absolument terrifiante. Côté anglais, ils sont leaders. Très très loin devant les autres de Premiership. On va dire que c'est la seule équipe qui carbure vraiment à plein régime. C'est la seule équipe qui est très régulière aussi. Et en Champions Cup, c'était une des seules équipes à avoir gagné tous ses matchs avec donc le Leinster et le Stade Toulousain. Et ils ont récidivé donc en s'imposant dans un beau match face à J'ai un trou, Julien, en huitième.
Merde. J'ai un trou moi aussi.
Ah.
C'était.
Bon, je me rappelle qu'ils ont fait un bon huitième de finale.
Northampton.
Ouais, Northampton.
Contre le Munster, c'était.
Contre le Munster, voilà, ils ont fait un bon huitième de finale contre le Munster, Northampton. Et donc en quart de finale, ils ont planté 9 essais aux Bulls de Pretoria. Et pourquoi ils ont planté 9 essais aux Bulls de Pretoria? Parce que les Bulls sont venus avec une équipe B disputer un quart de finale de, pas de Coupe d'Europe, mais de Champions Cup. Désormais, on peut plus l'appeler Coupe d'Europe.
Et donc,
en même temps,
le PCR a décidé d'ouvrir une enquête au sujet des Bulls. C'est ce qu'a révélé le Times durant le week-end. Pour cause, ils auraient faussé donc, le niveau et les résultats de la Champions Cup en décidant volontairement d'envoyer une équipe B. Alors, on ne connaît pas très bien les raisons de cet envoi. On peut facilement supposer que c'est les voyages qui doivent épuiser les joueurs et que les Bulls de Pretoria n'ont pas forcément envie d'envoyer leurs meilleurs éléments à l'autre bout du monde juste
pour un match. Ça veut dire que c'était une mauvaise idée de mettre deux équipes de l'hémisphère sud ?
C'est incroyable,
ça. Après, d'un côté, ce sont ces équipes sud-africaines qui ont demandé à rentrer à la Champions Cup à partir du moment.
Oui, bah après, on n'accepte pas tout non plus, c'est comme les enfants. Voilà.
Ah non, mais je veux dire, à partir du moment où les équipes sud-africaines
acceptent pas tout non plus, on peut leur dire non, désolé.
À partir du moment où les équipes sud-africaines acceptent, enfin, demandent à venir en Champions Cup, déjà de base, toutes les équipes, c'est marqué dans le règlement de Champions Cup, doivent s'assurer de proposer une équipe compétitive. Notamment, il y a quelques années, il y avait Northampton justement et le Stade français ou le Castres Olympique qui s'étaient fait avoir auprès de l'EPCR pour avoir envoyé des équipes B volontairement lors d'un match. Je vous parle de ça il y a vraiment plusieurs années, en 2015 ou quelque chose du genre. Là, du coup, c'est les Bulls qui risquent de se faire avoir, même si le journaliste du Times qui a révélé l'information a aussi révélé qu'une personne à l'intérieur de l'EPCR lui avait dit qu'il n'y aurait sûrement aucune sanction parce que l'EPCR risquait de perdre la face en condamnant une équipe sud-africaine alors qu'ils viennent tout juste de les rajouter au sein de la compétition.
Oh bah dites donc.
Ce qui voilà, est pas très juste hein, pour les autres, mais qui se comprend d'un point de vue politique.
Dites-moi que dans le rugby, nous qu'on pensait pur et idéalisé, il y a des choix.
Pour vous donner une idée, il y a pas mal d'internationaux sud-africains au Bulls. Il y a par exemple Kurt Clarence, Kanan Moody, encore Willy Leroux, qui sont vraiment des gros noms du 15 de Springboks. Et là, pour le coup, il y avait seulement 3 internationaux qui sont venus en Europe. Alors, je vais vous dire, il s'agit de Cornal Hendricks, qui n'a plus été appelé depuis 2015. Il s'agit de Nizam Kar, qui n'a plus été appelé depuis 2016. Et de Aker van der Merwe, qui n'a plus été appelé depuis 2018. Ils ont tous plus de 35 ans.
Ils sont tous venus
en Europe. Donc voilà, il y a vraiment eu une volonté de s'épargner.
Et une justice à deux vitesses.
Moi, j'ai vu une interview de l'entraîneur qui, comme argument, qui dit que, en fait, il leur fallait 8 vols pour arriver tous... en Angleterre, qu'ils arrivaient dans plein, d'aéroports différents, que ça lui coûtait 200 000 euros. Moi, j'avoue, je comprends pas trop.
Non,
normalement, il y a le partenaire, c'est Fly Emirates, et ils sont censés prendre une ligne de Fly Emirates.
C'est pas comme si c'était pas un peu prévu, enfin, je sais pas.
Et puis surtout, quand on se dit, est-ce qu'on va jouer la Coupe d'Europe, sachant qu'on est sud-africain, est-ce que ça va pas être un peu trop long comme voyage?
Bah non, mais c'est sûr.
Par exemple, les Sharks qui avaient joué donc un quart de finale à Toulouse l'année dernière avaient envoyé leur équipe type. On se rappelle qu'il y avait Sia Colisi qui était venu jouer au stade Ernest Vallon. Voilà, je vois pas pourquoi les Bulls se permettent de ne pas faire cet effort-là et de complètement fausser un match, même si franchement les 9 essais n'étaient pas.
On sent un petit peu énervant là. Erwan, on vous sent un petit peu.
Non, mais oui, voilà, c'est pas fair play.
Et c'est ça qu'on va vous demander. Allez, tapez. Ouais, c'est pas très radiophonique de taper du poing sur la table. Mais
je vais éviter pour les micros.
Je note que personne n'a pris Montauban qui a gagné contre Nevers. Alors là, on descend d'un niveau, on tombe en Pro D2. Montauban qui a gagné face à Nevers après. Non, tenez, je vais vous poser la question. Depuis le 5 janvier, donc cette année 2024, combien de matchs Montauban a gagné? Posez vos téléphones. Bande de tricheurs. Surtout vous, Anne-Françoise. Mais ça vaut pour votre voilà, hein, ça ne... Non, 3. Attends, Corinne, vous pouvez jouer.
Je dirais 2.
J'aurais dit 2 aussi.
Eh ben 2. Montauban n'a gagné que 2 matchs en 2024.
Ouais, non, ça va très très mal.
C'était contre Soyons Angoulême le 26 janvier et donc le week-end dernier face à Nevers. Montauban qui va tenter de se relancer, mais on en a parlé la semaine dernière, ça va être très compliqué puisque Rouen a aussi gagné. Rouen qui est bon dernier et qui n'a que 2 points de retard face à Montauban. Ça sent mauvais pour Montauban, mais voilà. Biarritz n'est pas trop loin non plus, n'est qu'à 4 points donc. Tout peut se faire, mais la série va être compliquée pour Montauban. On passe tout de suite du rugby au hockey sur gazon dans l'entretien d'aujourd'hui.
Esprit Sport, le face-à-face.
Aujourd'hui, en face-à-face, nous recevons Sophie Raffi, membre de la commission mixité du CNOSF pour la Fédération française de hockey. Elle est aussi élue à la Fédération française de hockey et présidente déléguée du TUC et de la section hockey sur gazon. Bonjour. Alors, on va parler du hockey sur gazon. En commençant, les origines du hockey sur gazon, comment c'est arrivé jusqu'à chez nous ?
Chez nous, ça fait quelques années que le hockey, alors, il était plutôt en salle avant d'être sur gazon. Même dans les années 50, en fait, il y avait plusieurs clubs universitaires qui performaient sur Toulouse, avec des équipes pouvant même aller jusqu'à 50 filles sur Toulouse en salle. Et bon, petit à petit, il y a eu une diminution de cet engouement vers ce sport, bien que au sein du TUC Hockey, on a eu nos filles en 2014 qui étaient même au championnat élite en salle. Mais voilà, donc le but était de revenir vers le hockey sur gazon parce que c'est le sport de prédilection du hockey, même si certains sont fervents et veulent maintenir le hockey en salle, ce que je comprends. Mais voilà, au niveau du TUC, on voulait repartir vers le hockey sur gazon, et c'est l'obtention d'un terrain synthétique il y a maintenant 4-5 ans qui nous a permis de progresser, d'augmenter nos nombres de licenciés et de performer dans cette discipline.
Quand on parle de hockey sur gazon, c'est pas le hockey sur de l'herbe qui pousse dans le jardin, c'est du synthétique, pour un petit peu replacer tout ça. Quand on pense au hockey sur gazon, on pense aussi au hockey sur glace. Pour ceux qui ne voient pas du tout les différences, quelles sont-elles ces différences? Peut-être la taille du terrain.
Alors déjà, nous, le hockey sur gazon se joue à 11 contre 11 sur un petit terrain de foot avec des cages qui sont plutôt de la taille d'un terrain, des cages de hand pour être un peu plus précis. Après, les crosses ne sont pas les mêmes. Nous, c'est des crosses, alors maintenant en graphite, peu importe la structure, ou en carbone, mais qui ont une tête beaucoup plus courte que celle du hockey sur glace. Ça se joue avec une balle qui a la consistance d'une balle de tennis avec l'intérieur qui peut être considéré comme une balle de golf. Donc, ce n'est pas un palais. Donc, voilà, déjà, ça, c'est les différences majeures. Et après, il n'y a que le gardien qui, nous, est équipé comme un gardien de hockey sur glace. Mais les autres joueurs ne portent que protège tibia et protège dents.
Pour éviter de prendre des coups de crosse, évidemment. Voilà. Ça semble assez accessible au niveau des équipements. Basket, tenue de sport, les protections et une crosse. Quelles sont les valeurs, mais quelles sont les qualités peut-être pour commencer un jour le hockey sur gazon?
Les qualités, je pense qu'il faut être quand même très physique, parce que il y a pas de hors-jeu, contrairement au foot. Donc la balle est toujours en jeu, donc c'est un sport qui va assez vite, hein, mais qui demande de l'agilité, parce que il y a aussi cette crosse. Hein, donc il faut être de la technicité, de la motricité et de l'endurance, tout en étant rapide en même temps.
Vitesse, agilité, technique, c'est presque le sport parfait au final.
A priori, oui.
Et on n'est pas sur la glace, donc on n'a pas froid, on n'a pas... Enfin, les joueurs...
On peut se mouiller parce que c'est en extérieur, tout autre sport d'équipe d'extérieur, mais bon, ça, c'est pas grave, ça.
Les épreuves de hockey, il y a des championnats, on va se rapprocher un petit peu des JO, on va évidemment les voir cet été, on verra les chances de médailles après. Pour tout ce qui est des JO, comment ça se passe pour accéder, pour être qualifié pour les JO? Est-ce qu'il faut faire un tournoi qualificatif? Est-ce qu'il faut on participe simplement parce qu'on est en France?
Alors non. Alors déjà, il faut être parmi les 12 premiers au niveau classement mondial pour pouvoir y participer, parce que c'est les 12 meilleurs qui participent. Sauf pour nos filles, on a eu une exception cette année dans la mesure où les Jeux de Paris se veulent en totale mixité. Il fallait qu'elles soient au minimum au rang de la 25e place pour pouvoir y participer, ce qu'elles ont été il y a de ça un an et demi maintenant. Et du coup, mais même actuellement, elles sont même 20e et elles n'arrêtent pas de progresser. Donc ça montre que cet élan et cette volonté de la fédération d'impliquer notre équipe de filles, on y a mis plus de budget bien sûr, on essaye de faire attention aussi à ce qu'il y ait un peu moins de différence entre nos deux collectifs hommes et femmes. On a encore du travail, on le sait, mais en tout cas voilà, on tend vers une amélioration de cette et une diminution des différences entre les deux collectifs. Mais voilà, c'est la première fois depuis l'existence des Jeux et du hockey dans les Jeux, c'est-à-dire en 1908, qu'on aura nos deux collectifs, hommes et femmes, qui vont participer à ces Jeux de Paris.
Est-ce qu'à terme, on peut voir une équipe mixte?
c'est pas totalement le but actuellement au niveau de la fédération internationale. Ça peut, on peut jouer très bien en équipe mixte. Alors quand on fait, on a une autre discipline en gazon qui est le rugby, le hockey à 7. Et donc du coup, il y a des, totalement des équipes mixtes à 7. Au niveau régional, on peut aussi jouer à 11 avec des filles dans les équipes masculines sans problème. Mais dès qu'on passe au niveau national, oui. Voilà, on préfère malgré tout ne pas qu'il y ait cette mixité de par la puissance aussi qui peut être parfois différente entre les hommes et les femmes, bien que cette différence peut s'amenuiser, j'en ai conscience.
Les épreuves de hockey sur gazon au JO, ça va être comme un tournoi avec des poules et des phases finales.
Il y a deux poules, et donc exactement comme un tournoi. Et donc il y a deux poules de 12 équipes hommes et de 12 équipes femmes. Et les matchs se jouent en quart-temps de 15 minutes chaque quart-temps.
Voilà, donc en plus, c'est pas plus long que... C'est pas énormément long. Donc vraiment, on a de quoi s'intéresser au hockey sur gazon. Les JO, on présume que vous attendez qu'il y ait une démonstration d'amour pour cette équipe de France qui va participer. Est-ce que vous pensez que les JO vont mettre en lumière le hockey sur gazon? Est-ce que vous vous attendez à un intéressement grandissant des Français pour le hockey sur gazon?
Alors, c'est ce qu'on espère, bien sûr, et que derrière...
Parce que ça a tout pour plaire, c'est visuellement beau,
derrière,
c'est
derrière, on a des retombées, et c'est un des sports les plus regardés au niveau mondial aussi. C'est le troisième sport le plus pratiqué au monde, et le quatrième ou cinquième sport le plus regardé lors de matchs et de compétitions. Donc, on a de quoi faire, et la route est... on a un gros potentiel en France pour pouvoir arriver à performer, à augmenter notre nombre de licenciés, mais on espère bien sûr que ces JO vont mettre en lumière notre sport, surtout dans le stade qui est mythique de Yves du Manoir, qui est le stade aussi des premiers Jeux de Paris en 1904.
Est-ce que vous avez un nombre de licenciés en France en tête, à peu près une fourchette?
Oui, on est à peu près à 11 500 licenciés. Je n'ai peut-être pas les derniers chiffres totalement en tête, mais c'est dans ces zones. Oui.
Plus de 10 000, donc on espère...
Mais ce n'est pas suffisant.
Évidemment, on pense que pour avoir un niveau compétitif, pour pouvoir peut-être rivaliser avec des grandes nations, il faudra améliorer et avoir plus de licenciés. Justement, cette compétition avec les autres nations du hockey sur gazon, où est-ce qu'on se situe?
Alors,
plutôt en haut du podium, plutôt au milieu.
Les garçons sont à la 12e place.
Les filles 20e, on a vu.
Les filles 20e. Et même les moins de 21 ont fini vice-champion du monde au mois de décembre dernier. Et ça fait plusieurs fois même qu'ils sont dans le carré final. On a même été dans le carré final aussi chez les garçons aussi dans les derniers championnats du monde, pas ceux-là, ceux-là d'avant. Donc voilà, la progression est là. Les résultats y sont. Maintenant, bon, on espère toujours le mieux pour nos deux collectifs.
Donc, les deux collectifs qui montent en pression, qui montent en qualité. Une chance de médaille, peut-être? Est-ce qu'on se mouille?
Je ne me mouillerai pas. Je laisserai les sportifs, en tout cas la DTN et les responsables sportifs se mouiller plus que moi. Bien sûr, ça serait la cerise sur le gâteau, ça c'est évident.
On espère une belle médaille d'or autour du cou des sportifs français. En tant que membre de la commission mixité du CNOSF, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui va être mis en place pour favoriser justement cette mixité pour la fédération de hockey?
Alors, pour la fédération de hockey, il y a ce parcours de formation des dirigeantes, parce que c'est important. Il y a le parcours qu'on appelait au niveau du CNOSF les 300 dirigeantes. Donc, ça fait la deuxième année que cette commission a lancé ce parcours à l'initiative du CNOSF, donc de faire ce parcours des 300 dirigeantes. Et on a quelques personnes qui y participent, parce qu'il faut un peu plus de mixité à tous les niveaux, que ce soit donc au niveau des joueuses, au niveau des arbitres, des officiels, au niveau des dirigeantes et au niveau des entraîneurs aussi. Parce que voilà.
Il y a un problème, il n'y a pas assez d'entraîneurs féminins au sein du hockey?
Jamais assez.
Il en faudrait plus et, voilà. Puis on espère. Est-ce que c'est un homme ou c'est une femme qui a la tête de la sélection féminine?
C'est un homme qui est à la sélection.
Preuve que...
Mais c'est une femme qui est présidente de la Fédération française de hockey.
Et bien voilà, comme quoi la mixité
première
arrive.
Première femme depuis la création de la Fédération.
Historique.
Exactement.
qu'est-ce qu'on peut espérer donc après ces JO, après cette mise en lumière du hockey sur gazon pour la France ?
Qu'il y ait une retombée dans nos clubs pour que
locaux,
justement
en France et surtout à Toulouse, peut-être au TUC même.
Tout à fait, tout à fait. On est en progression constante depuis l'obtention du terrain. On est actuellement à 160 licenciés à peu près et on espère augmenter encore et passer cette barre des 200. Ça serait quelque chose de
d'important pour, le club. Pour ceux qui veulent alors soit essayer, soit oui. Même tout simplement voir du hockey sur gazon. Comment on fait à Toulouse et en région pour pouvoir en voir ? Parce qu'on n'en voit pas à la télé, on n'en voit nulle part, sauf aller sur les terrains. Comment on fait pour aller voir simplement du hockey ?
Alors, le plus simple, c'est de suivre nos réseaux sociaux sur TUC Hockey sur Gazon pour pouvoir savoir quand est-ce qu'auront lieu nos prochains matchs. Là, on est en période d'hiver, donc ça se joue en salle. Et comme nous ne jouons pas en salle parce qu'on n'a pas accès à un gymnase. Donc, on va reprendre là, les premiers matchs le 3 mars. Ça va être le match des filles, des seniors dames qui vont jouer en National 1. Qui jouent en National 1 puisqu'elles ont été championnes de France en National 2 l'année dernière. Donc elles sont montées en National 1 et elles vont rencontrer l'équipe qui est actuellement première au classement de ce championnat. Donc ça peut être intéressant de venir supporter, regarder, encourager nos seniors dames à 15h sur le terrain de hockey qui se situe 13 chemin de Limérac à Toulouse.
Voilà, tous les réseaux sociaux du TUC, évidemment, Facebook, Instagram, pour pouvoir suivre. Un site internet aussi ?
Oui, bien sûr, ce Toulouse Hockey...
Voilà. .fr. Vous pouvez retrouver...
Après, il y a plusieurs clubs dans la région, voilà, parce qu'il n'y a pas que nous. Je vais aussi en citer plusieurs. Donc, il y a l'Île Jourdain aussi, qui est un club qui est aussi le club où il y a le nombre d'illustrés.
Le concurrent, peut-être.
Concurrent, dans certaines façons.
Le derby.
Et puis, oui, c'est souvent des derbies entre nous deux. Mais c'est aussi un club qui est créé depuis une dizaine d'années et qui progresse aussi avec une équipe senior, une équipe hommes, dames, des jeunes comme nous, avec une école de hockey exactement comme nous. Et après, on essaye d'arriver à essayer d'augmenter le nombre de clubs sur la région. Il n'y en a que 6 actuellement et ce n'est pas suffisant.
Ah, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui hésite, qui se dit que peut-être le hockey c'est trop dur, parce qu'on a parlé de vitesse, d'agilité, de technique, de physique. Ceux qui hésitent à venir, à faire ce premier pas pour venir vous voir ?
Déjà, venir essayer. Nous, tous les samedis matins de 10h à midi sur le terrain de hockey, donc à l'adresse que je vous ai indiquée, s'il y a un cours loisir. Donc déjà, ce n'est pas de la compétition et il y a des personnes qui n'avaient jamais touché une crosse et qui maintenant sont passionnées et c'est vrai. Donc il y a eu des mamans aussi ou des papas, on leur a dit plutôt que d'attendre sur le bord du terrain pendant que vos enfants avaient cours de hockey et ils ont pris une crosse et petit à petit, il y a un groupe d'à peu près une vingtaine de personnes qui pratiquent cette activité tous les samedis matins.
Voilà, donc on espère que ces JO vont mettre en avant, vont mettre en lumière le hockey sur gazon qui en a besoin, tant en termes de licenciés qu'en termes de mixité. Merci beaucoup Sophie Raffi d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli et de m'avoir fait parler de ce sport que je n'ai jamais pratiqué.
Vous n'avez jamais fait de hockey sur gazon ? Quand est-ce qu'on pourra peut-être faire un entretien en direct en faisant du hockey sur gazon ensemble ?
Vous venez, on essaiera sur le terrain, il n'y a pas de problème, vous serez
bien
accueillis.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, la question qui tue. Erwan, le hockey sur gazon, ça vous tente ?
Pourquoi pas ?
C'est du terrain synthétique, attention.
Ah oui, alors attention, parce que le terrain synthétique,
oui.
Paraît que ça brûle, n'est-ce
oui,
pas Jonathan ?
Je me suis brûlé
les
genoux.
Frais,
ouais. Voilà, c'est vrai, avec Julien et Erwan, on a fait un rugby touché avec Maxime Rouquet, qu'on a reçu dans l'émission Rugby No Limites, voilà.
Exactement.
Et on a fait un rugby à toucher, et ça s'est mal terminé pour mes deux genoux, voilà.
Oui, voilà, mais votre talent en rugby n'en a été
arrête,
plus grandi.
Arrêtez, Françoise Cross ou Anthony, jeu très long.
Je cours même.
Merci Julien.
Avec plaisir.
On verra ça dans quelques semaines, on en reparlera. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous tente le hockey sur gazon ? En plus, on a des chances de médaille.
Bah oui, mais moi, tous les sports où il faut courir beaucoup et où on va dire « Oh, vous avez bien couru alors que j'ai été mauvais », moi, ça me va.
Ah voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Je suis un peu le labrador du sport de ballon.
Faudrait songer à l'athlétisme, du coup. Ah,
on va enregistrer ça, Coraline. Je suis le labrador du sport. Oh là, c'est incroyable. Du moment où vous courez, vous êtes content, Erwan.
On oui, saura mais... vous le ressortir.
Ah, oui, oui, oui.
Avec une balle.
La semaine prochaine, on va l'appeler le labrador de l'émission.
Allez.
Ça va être beau. La crinière au vent. On va se remettre de cette petite cette bonne blague. Une petite musique, Coraline. On écoute lancer. Il y a une intro sur la musique, voilà. Ça commence à la guitare, ça continue au micro, et on se fait transporter par 47 Hz tout de suite.
On a tellement rêvé d'elle. À quoi bon la vie en vrai, si on nous les enlève? On a tellement rêvé d'elle. À quoi bon la vie en vrai, si on nous les enlève? Plus tu pars en balade, plus tu l'as dans la tête. Plus je te demande si ça va, moins tu agites la tête. Plus ça va, moins tu vois ta vie en solitaire, yeah. Plus tu la vois, plus tu la veux en solo sur la terre. Plus tu parles loin des les putes en parlent, embellissant la plupart ses physiques, gestes, les départs, les arrivées, ça dépasse tout ce que l'on pensait. C'est pas que c'est insensé, mais dis pas qu'aujourd'hui tu n'y as pas pensé. On a tellement rêvé d'elle. À quoi bon la vie en vrai, si on nous les enlève? On a tellement rêvé d'elle. À quoi bon la vie en vrai, si on nous les enlève? Plus jamais je lui parle, pas en vrai, pas en net. Dans mes rêves, demain on part, ouais non maintenant on part même. On veut voir nos vies réelles telles qu'on la voyait dans nos rêves, et nous dire le matin que c'était la même. Plus ça va, plus tu la revois dans tes pensées. Plus ça va, plus tu te revois dans ses bras danser. Plus ça va mal et plus vous vous revoyez chanter. Est-ce que tu crois que le temps va te l'effacer? Est-ce que tu imagines un jour le temps la remplacer? Évidemment, si c'est la bonne, y'a rien à faire, yeah. Tu le sais, si tu as fait de la rencontre un jour férié. On a tellement rêvé d'elle. À quoi bon la vie en vrai, si on nous les enlève? On a tellement rêvé d'elle. À quoi bon la vie en vrai, si on nous les enlève? Plus jamais je lui parle, pas en vrai, pas en net. Dans mes rêves, demain on part, ouais non maintenant on part même. On veut voir nos vies réelles telles qu'on la voyait dans nos rêves, et nous dire le matin que c'était la même. On va pas pouvoir attendre les planètes alignées. En les déplaçant, on gravira les paliers. Et on sera bien heureux plus vite avec elle. Notre avenir va devenir notre allié. On a tellement rêvé d'elle. À quoi bon la vie en vrai, si on nous les enlève? On a tellement rêvé d'elle. À quoi bon la vie en vrai, si on nous les enlève? Plus jamais je lui parle, pas en vrai, pas en net. Dans mes rêves, demain on part, ouais non maintenant on part même. On veut voir nos vies réelles telles qu'on la voyait dans nos rêves, et nous dire le matin que c'était la même.
Et la guitare, Erwan, est-ce que ça vous plairait de faire de la guitare?
Oh, peut-être pas, je suis aussi habile avec mes doigts qu'avec un ballon, vous l'avez
vu. Ah ouais, dites donc, vous avez des qualités. Tout de suite, on débat ensemble. Et après ces bonnes performances face à Pau en top 14 et face à Exeter en Champions Cup, le Stade Toulousain se dirige-t-il vers un doublé championnat Coupe d'Europe? C'est la question que je vous pose aujourd'hui, voilà. Erwan, vu comme vous parlez beaucoup aujourd'hui, est-ce que vous pensez que... alors, match à Pau, déjà, Coraline, bon match à Pau, elle n'était pas d'accord, Coraline.
Non, parce que...
Voilà, merci Coraline, du coup, maintenant Erwan.
Qui n'était pas à Pau, qui était à Toulouse, d'ailleurs.
Alors déjà, on va... Pourquoi Pau? Parce que le Stade Toulousain n'a pas très bien joué, mais a gagné.
Ouais, mais
donc
ouais,
au final, alors,
bah, du coup,
mais a fait un match catastrophique face à Pau.
Même
excusez-moi,
comme ça,
je veux dire, on... gagne le match Toulouse à la 78e, je crois.
Oui, mais voilà, ce qui prouve encore que le TFC, que le Stade Toulousain joue 80 minutes, et même en jouant, voilà, ils arrivent quand même à gagner.
Mais le match était pitoyable, on peut pas dire que c'était
ça,
une
ça,
belle
parce
performance.
Que, non, ça, je sais un petit peu dégrave pas... parce que vous avez payé la place.
Non.
Pas pareil. Que vous avez payé la place pour battre Toulouse à domicile.
On peut pas dire que ça soit une belle performance. Bah,
ce qui est sûr,
après,
c'est
l'avantage.
Ça, ouais, en jouant comme
Toulouse.
Ça, on peut pas rencontrer Leinster, quoi.
Non, clairement pas.
Voilà.
Oui, non, mais ça suffit en top 14.
Ah bah d'accord, mais bon là
ça
on parle de la fin de la saison, on parle
ça suffit
de
en top 4, ça suffit en top 14 face à une petite équipe, parce que j'ai conscience que la section paloise n'est pas la grande équipe du top 14.
Un très bon début de saison.
Ah oui, non, alors, mais bien sûr,
après,
mais je veux dire
le contexte est différent aussi, hein. Enfin, face au Leinster, je pense que
voilà,
ah
c'était
bah
pas
oui,
la même équipe.
Bah
hein,
oui,
enfin, c'était pour dire s'ils jouent comme ça en championnat et que ça passe. En Coupe d'Europe, on le voit bien, ils ont joué très bien en deuxième mi-temps face à Exeter, d'où le fait que j'ai précisé Exeter dans le lancement Champions Cup. Du coup, voilà, est-ce que en jouant comme ça, le Stade Toulousain se dirige vers un doublé? Erwan, du coup. Ah, voilà. Allez-y.
Non, mais le Stade Toulousain est toujours candidat à un doublé, tout du moins jusqu'à ce qu'il doit se déplacer à Dublin pour affronter Leinster. Cette saison, il n'aura pas à le faire. Au mieux, il le rencontrera au Stade de Tottenham à Londres. Donc voilà, oui, côté Champions Cup, je vois, on va dire, je suis plutôt optimiste sur la potentialité d'un titre.
Il n'y a plus La Rochelle.
Il n'y a plus La Rochelle. Mais, de toute façon, le Leinster est toujours le plus gros ennemi.
Voilà. C'est l'épouvantail. On se dirige vers une finale, clairement, Toulouse-Leinster.
Ah, peut-être pas si clair que ça.
Ah, et puis il y a Northampton quand même.
Oui, il y a Northampton qui est très bon. Les Harlequins, c'est vraiment l'équipe piège par excellence.
Ouais, ouais. Julien n'est pas d'accord avec ça.
Je pense que, franchement, je pense pas que. Enfin, ça m'étonnerait que Northampton passe contre Leinster.
Ça m'étonnerait aussi, mais je pense qu'il ne faut clairement pas les prendre.
Ah oui, oui, oui.
Si le Leinster les prend avec pas par-dessus la jambe, ça passera pas. Et puis, mais après, je pense que vu que le déplacement se fera à Croke Park devant plus de 80 000 personnes, que par conséquent le Leinster sera à bloc, je les imagine mal se trouer lors d'une échéance particulière, même si en tant que Français, on sait bien qu'il y a des équipes qui se trouent lors de leurs déplacements prestigieux, hein. Je veux dire, Toulon et Bayonne sont là pour le prouver, c'est plutôt du niveau de top 14 où j'ai un peu peur. Je trouve qu'il y a des équipes qui jouent très bien au jeu du Stade Toulousain et qui parfois gagnent. L'équipe qui me traverse en premier l'esprit, c'est l'Union Bordeaux-Bègles, j'allais dire le Stade Bordelais. Le Stade Bordelais, parce que j'ai regardé les filles ce week-end et il y avait plusieurs jeux du Stade Bordelais, donc c'est pour ça que ça m'est venu à l'esprit.
Quel esprit vivace.
Je les imagine peut-être avoir un peu plus de mal face à ces équipes qu'ils connaissent peut-être un peu mieux. Le Stade français peut aussi les embêter, même si j'ai un peu de mal à imaginer le Stade français gagner le top 14.
Top 14, ouais.
Je pense qu'il y a quelques équipes qui peuvent les embêter.
Le dernier match de top 14, donc c'était Toulouse-Pau, et c'était Stade français Montpellier.
C'est ça.
Eh bien, c'est bien le rugby amateur aussi. Stade français Montpellier. Pour l'avoir regardé, purge. Et ça, c'est candidat. Après, le rugby est quand même un sport magnifique. C'est-à-dire qu'on peut être sixième et champion de France.
Ah, mais c'est sûr.
Ça, c'est quand même un des sports les plus équitables au monde. Hein, c'est que, en plus de ne pas sanctionner les Sud-Africains, on aime bien faire gagner les mecs qui n'ont pas gagné toute la saison. Ça, c'est à notre avis. Malgré le fait que j'adore le rugby.
C'est très mal de parler de Castro comme ça.
Ça, c'est bien, Erwan, parce que c'était totalement sous-entendu. Bien joué, Erwan. Bon point en plus. Tenez, je vous le note, c'est pas mal. On joue pour rien, mais c'est pas mal. En tout cas, le Stade français, si. Dans un monde utopique, son champion de France, celui qui doit gagner, c'est celui qui joue le mieux. Qui joue le mieux en France?
Soit Bordeaux, soit le Stade Toulousain.
C'est ça.
Donc en fait, le problème, c'est qu'on sait qu'un accident des deux côtés est possible. Bon, plus du côté bordelais que du côté du Stade Toulousain.
Après, avec les doubles échéances.
Oui, mais bon, le Stade Toulousain a l'avantage de savoir le faire, gérer ce genre de truc. Le Stade Toulousain, c'est un monstre en France, c'est un Europe.
Mais Bordeaux n'a plus à s'en préoccuper.
Oui, mais Bordeaux est peut-être plus facilement battable. Ça veut rien dire, mais est plus facilement
impressionnable aussi par les gros échecs. Voilà.
C'est surtout Toulouse, la profondeur du banc, tout simplement.
On l'a vu ce week-end.
Quand tu vois qui est
les deux équipes de tableau,
Marchand.
C'est ça.
Thibaut Flamand n'est pas titulaire en
C'est ça. Le privilège de faire jouer.
C'est ça. C'est assez incroyable. Même Mathieu Lartout le disait sur France 2. Ils font sortir des colosses pour faire rentrer qui? Les mêmes.
C'est ça.
Les mecs en face, ils se sont dit, vous avez pas des U21 à faire rentrer?
Il y a Paul Coste.
Il toque à la porte de Chistera, 9 essais. Allez, bisous. Mais oui, c'est vrai que, en vrai, la question de est-ce que le Stade Toulousain peut faire un doublé? La réponse est évidemment, mais est-ce que le Stade Toulousain, à part le Leinster, qui peut battre cette équipe en Europe?
Moi, j'étais un peu d'accord comme Erwan donc en disant que moi aussi, je serais plus confiant, on va dire, pour la Champions Cup, parce que... Pour le championnat, j'allais dire, il y a des équipes, par exemple Toulon, qui est en train de revenir
en
force.
Qui retrouve le Stade Toulousain.
Avec le retour de Baptiste, qui est carrément une autre équipe. Et donc, on a toujours ce Racing, qui, en phase finale, peut toujours être aussi embêtant. Bordeaux, le Stade français aussi, qui est l'équipe
qui a battu le Stade Toulousain aussi.
La Rochelle aussi. Exactement, ils étaient double tenant du titre de la Champions Cup.
Oui, mais Toulouse contre La Rochelle, c'est souvent un bon scénario pour les Rouges et Noirs.
C'est vrai. Mais en général, ça va pas être le même contexte, je pense, quand même.
Là, ils auront pas de doublons, pour le coup.
En plus, les demi-finales se jouent à Bordeaux. Donc, si jamais le Stade Toulousain
affronte
La Rochelle en
demi-finale, comme si La Rochelle était à domicile.
Les deux sont à coup distance, on pourrait dire, parce que bon, le train permet facilement d'aller à Bordeaux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que en tout cas, les Rochelais sont prêts à faire peut-être plus de bruit au Matmut Atlantique que les Toulousains. Et voilà, j'ai peur.
Et je pense que Bordeaux sera aussi pour La Rochelle.
Pour La Rochelle, c'est-à-dire contre Toulouse, en fait.
C'est sûr.
Exactement.
Non, mais c'est ça, du coup, en championnat, à partir des demi-finales, tu as un terrain neutre. Donc ça te fait plus la finale. Donc ça fait deux matchs où, bon, voilà, on n'a pas. Tandis que là, la demi-finale de Champions Cup, qui se joue au stadium, ils auront un public acquis à leur cause. Donc bon, normalement, ça devrait le faire. Et en plus, cette équipe du Leinster en Champions Cup. Donc Toulouse, on a l'impression qu'ils n'ont jamais été aussi forts. Ces dernières années en Champions Cup, et à contrario le Leinster moins fort que ces deux dernières années, donc en Champions Cup pas trop, enfin même je pense que Toulouse serait même favori, mais voilà, en championnat c'est encore même, enfin déjà on sait même pas comment ça va se finir, quels vont être, enfin le top 2 on se doute, mais bon après
Toulouse n'est qu'à 3 points du Stade Français qui est premier,
c'est ça.
Après quand on voit la longueur, tu vois le top 14 sur toute sa longueur, faut voir aussi comment le championnat a débuté, les étapes que Toulouse a dû passer sans ses joueurs, Antoine Dupont qui est parti au 7, enfin.
Oui, ça leur a pas gêné.
C'est ça que je veux dire.
Ils sont toujours sous l'eau,
on arrive deuxième. Ça dépend comment ils jouent. S'ils jouent comme la première mi-temps de dimanche,
pour
ça
donner
un peu. Si c'est comme la deuxième, ça va être plus sympa quand même.
Pour donner quelques chiffres, Bordeaux 6e, donc premier aux phases finales, 49 points. La Rochelle, 51 points. Toulon, 51 points, 4e. Le Racing, 52 points. Le Stade Toulousain, second, 60 points. Donc il y a 8 points d'écart entre le Racing et le Stade Toulousain. Et entre le Stade Toulousain et le Stade Français, il n'y a que 3 points d'écart. Donc on est clairement sur 2 ovnis au-dessus. Et le reste fait ce qu'il peut.
Après le reste, ils auront un match de plus du coup.
Oui, mais clairement.
Enfin, comme ils sont pas en Europe, ça les dérange pas trop.
Claire. Le petit tacle pour La Rochelle et Bordeaux, on a apprécié. Qui peut faire l'épouvantail en Coupe d'Europe et en championnat pour potentiellement faire chavirer ce Stade Toulousain? En Coupe d'Europe, le Leinster, clairement, ou peut-être.
Ou le Queens.
Tout est possible.
C'est vraiment l'équipe piège par excellence.
Très imprévisible, très joueuse. Ça
a toujours été leur idée. De toute façon, on imagine toujours les Anglais un peu froids. D'ailleurs, les Tigers, ou même les Wasps, pendant très longtemps, ont été la meilleure démonstration. On s'amusait pas forcément énormément devant les matchs, mais les Harlequins, ça a toujours été une équipe très. Très flamboyante.
Ouais.
D'ailleurs, à l'image un peu des Harlequins qu'on a nous en France, l'USAP, même si pendant longtemps c'était plutôt leur mêlée qui faisait leur sel. Mais là, en top 14, moi je pense que le Stade Toulousain peut et doit se méfier beaucoup plus des autres adversaires, parce que cette équipe du Stade Toulousain, elle me rappelle, alors la comparaison est très élogieuse, mais je ne veux pas forcément dire qu'ils ont le même niveau, mais plutôt le même profil lors de leur match, mais avec les All Blacks d'il y a à peu près 5-6 ans, où en fait ils étaient constamment collés à, quand ils affrontaient des équipes de bon niveau, ils étaient constamment collés à elles jusqu'après la 50e, 60e heure de jeu, et dès qu'il y avait les titulaires qui commençaient à fatiguer et avant l'entrée du banc, ils profitaient des quelques minutes. Et là, il y a eu 4 essais en 10 minutes de Bordeaux de Toulouse
Compétiteur. Le Stade Toulousain, ça fait longtemps qu'ils font ça, parce qu'en fait, depuis, je dirais, 2-3 ans, la 60e, à partir de la 60e, c'est là où ils marquent le plus grand nombre d'essais. En tout cas, ils en marquent plus que les autres équipes. Et clairement, la raison, c'est la profondeur du banc, je pense. Et puis, leur physique globalement.
La profondeur du banc,
outre
que Exeter était aux fraises en deuxième mi-temps hier, clairement, le banc, c'est plus un atout. C'est plus un joker, c'est force d'attaque.
Ah oui.
C'est ce que j'allais dire. Ils ont l'avantage d'avoir deux équipes A, en fait. Et on l'a vu pendant la Coupe du Monde, le tournoi destination, etc. Oui. C'est que Toulouse a pu faire le job grâce à son banc, justement.
On louait la Dupont-Mania il y a quelques temps.
Mais voilà.
Maintenant, il n'est plus là.
Quand tu vois Paul Graou, franchement, il est titulaire de n'importe quelle équipe du top 14, quoi.
Très bel essai d'Antoine Dupont, d'ailleurs.
Ah oui, magnifique. Son crochet, j'ai cru que j'allais avoir les croisés dehors.
J'ai entendu le SAMU arriver au stade. Je pense qu'il a laissé une cheville, l'anglais, en face. Là. Ouais. C'était... Mais bon, pour lui, bon, Dupont.
Non, mais bon,
on va pas en parler parce que c'est le gendre parfait et c'est un peu agaçant. Mais On espère qu'il sera là en Australie
Contre une équipe qui est capable, qui connaît le Stade Toulousain, et surtout contre un coach qui connaît le Stade Toulousain, un coach intelligent, ouais. Et notamment quand je dis
comme
ça,
Yannick
je pense
Bru.
C'est ce que j'allais dire, comme Yannick Bru, qui est un excellent coach. Je pense que ça peut faire la différence parce que je pense que par exemple sur ce banc, ça peut se contrer très rapidement en faisant un bon coaching, en arrivant à prévoir ce que Gomola va faire et en arrivant à taper fort avant que les entrants rentrent. Ce qui peut obliger les entrants à rentrer dans une autre dynamique, peut-être où ils sont un peu moins en sécurité, etc. Après, on est sur des joueurs hors normes qui offrent des scénarios hors normes, donc c'est difficile
de
prévoir
des
matchs. Vous l'avez
dit, on n'est pas titulaire.
Mais je pense qu'en vraiment en prévoyant bien et en préparant son match vraiment de manière millimétrée, il y a moyen de battre ce Stade Toulousain même en phase finale.
Parce que contre Exeter, alors une fois qu'ils se sont remis un peu à jouer, mais en fait leurs premiers essais, on sentait vraiment que c'était des combinaisons hyper répétées.
Oui, on l'a vu sur une touche.
Ça avait l'air de passer, mais alors comme dans du beurre. D'ailleurs, on comprend pas trop vu la physionomie de la première mi-temps comment les deux essais ils sont passés aussi bien. Mais on sent vraiment des trucs hyper répétés. Donc en fait, avec l'aide de la vidéo, c'est des trucs qu'on peut contrer aussi. Même si moi ce que j'aime bien à Toulouse, c'est quand des fois ils font un peu comme les Harlequins, t'as l'impression qu'ils jouent un peu n'importe comment, puis ça passe. Puis ils font des trucs de dingue et puis les gens ils sont là, les soutiens ils sont là,
se laisser emballer par le moment. Mais c'est ce qu'il faut aussi des fois.
Ah c'est exactement ce qui s'est passé en deuxième mi-temps dimanche. Et je pense que tous ceux qui étaient dans le stade, ils se sont régalés.
Ah, oui, en plus c'est super, il y avait de la bonne musique.
Il y avait de l'ambiance comme ça vous plaît habituellement.
C'est vrai.
D'ailleurs, il y avait une sacrée ambiance. Je pense que l'arbitre il va s'en souvenir parce que comment il s'est fait siffler.
Mais je pense que justement parce qu'au tout début du match, c'était un petit peu calme, on va se dire. Et puis alors quelques
c'était un peu marrant.
Quelques erreurs, selon moi, d'arbitrage ont réveillé le stade. Ouais. Et alors là, après, ils étaient partis.
Ah là, c'était l'ambiance. Mais en fait, moi, je trouve que pour le coup, la réaction du public, je vais pas valoriser les publics qui sifflent, mais pour le coup, je pense que...
Ça fait partie du folklore, hein, c'est pas...
Non, mais en plus, là, je pense qu'ils ont eu une vraie action, c'est-à-dire que l'arbitre, en fait, il s'est un peu réveillé, quoi. C'était... Enfin, franchement, son arbitrage, il était hyper litigieux.
C'est un peu jeune, l'arbitre, non, Erwan ?
Excusez-moi ?
L'arbitre était un peu jeune.
Il est... Oui,
en expérience,
pour on va dire toutes ces échéances-là, oui. Mais de toute façon, il n'y a quasiment que des arbitres jeunes, comme pour l'UBB, il y a Piardi, l'arbitre italien, il était aussi jeune, parce qu'il y a un renouveau de la génération, donc ils sont tous jeunes. Mais,
On va terminer avec une question. Doublé, oui, non ?
Ouais.
D'accord. Faut pas participer, hein, si c'est pour faire ça.
faut pas jouer.
Oui, je pense.
Oui, voilà, ça c'est une. Voilà. Erwan ?
Non.
Oh,
victoire en Champions Cup, défaite en top 14.
En finale ?
Face ?
En demi. Oh.
Face ?
Contre Bordeaux.
Et c'est dans la boîte. Et si vous avez raison, Erwan.
On vous paye l'apéro, puis sinon, c'est vous qui payez.
Et bien, voilà, marché conclu.
Et Anne-Françoise ?
Moi, je pense qu'il ne faut pas jouer trop les trucs. Il ne faut pas jouer les matchs avant d'y être, mais moi, j'aimerais bien doubler, ouais.
Oh, la phrase de coach.
Bah ouais, j'ai exactement cité Hugo Mola. J'ai cité Hugo Mola, la 50e.
C'est Hugo
Mola.
Ouais,
on va quand même. J'aimerais bien qu'ils en mettent un de plus. Ok, d'accord, on le fait.
D'accord.
Ok, ouais. Ok.
Ben voilà, on suivra ça avec attention et évidemment, ce sera toujours dans l'esprit sport. Tout de suite, on pronostique un match. Bon, la semaine dernière, tout le monde avait vu, évidemment, la victoire du Stade Toulousain. Peut-être pas autant. On avait vu un match gagné par le Stade Toulousain, évidemment. Mais là, nouveau match. On va parler de foot Toulouse-Marseille. On en a parlé, évidemment, dans les tops et les flops. Eh bien, on va commencer par Erwan. Vous avez 30 secondes pour nous pronostiquer ce match Toulouse-Marseille. C'est dimanche à 19h au Stadium.
Alors, moi, j'espère que le Stade Toulousain, bien sûr, j'espère que le TFC va enfin l'emporter contre Marseille et enfin un peu regagner son public. J'ai l'impression que c'est ce qui lui manque, la victoire contre un gros, mais surtout contre une équipe très supportée. Moi, je vois un peu peut-être une physionomie comme le match contre Rennes et même contre le match contre Monaco, où en fait, ça va être deux buts très réalistes, où les joueurs vont être motivés par l'échéance, et un but côté Marseille, donc voilà, un 2-1 pour Toulouse, avec notamment peut-être un but de Dalinga.
Il donne même les buteurs et ça c'est beau. Anne-Françoise, 30 secondes.
Moi je suis moins optimiste qu'Erwan. Je vois plutôt un match nul.
Un bon vieux 0-0.
Non, je pense plutôt à un 2-2, mais voilà, nous verrons.
Joli match nul.
Ouais, mais.
Oui, avec les buts.
Mais ouais, non, je vois pas le TFC gagner quand même.
Très bien.
Bon, après, moi je suis nul en foot, hein, donc. Faut
On va. Voilà, 13 secondes qu'on va couper, c'est net et sans bavure. Coraline, 30 secondes à vous.
Ah, 30 secondes, je vais pas faire 30 secondes, ça c'est sûr. Écoutez, je préfère vous dire que je vois une victoire de l'OM
à l'Olympique de Marseille, voilà, contre le TFC, 2-1. Voilà.
2-1, très Allez. Bien. Vous profitez pas des dernières secondes, alors on enchaîne avec Julien. Moins de 30 secondes. Bon, alors vous en donne 20 parce que vous êtes un expert
Allez.
En foot.
Bah, il faut savoir que bah, l'OM va avoir un match très important en Ligue Europa, donc il y a des chances que donc, cette équipe de Marseille va y laisser peut-être des plumes. Et du coup, à Toulouse d'en profiter, qui est actuellement sur une bonne dynamique. Mais pour autant, quand même, il y a plus d'expérience côté Marseille. Et comme le disait Juan, ces dernières années, le TFC, enfin, l'OM ne sourit pas trop au TFC. Mais je vois quand même un match nul, un partout.
Très bien, c'est noté. Bien, merci beaucoup pour tous ces pronostics. On se retrouve la semaine prochaine. Nouvelle émission, même radio, même heure. On parlera de course et de marathon. Soyez au rendez-vous. Bonne semaine.